Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Megillah, page 22, DAF Kafbet.
Bonjour à tous, c'est DAF est clair, Megillah Kafbet. On était hier en plein milieu d'une question, comment est-ce qu'on allait partager l'Aliot au Rosh Kodesh ? Rav a répondu à ce sujet, j'ai pas entendu de réponse, mais j'ai entendu un problème qui ressemble à celui-là. Il est marqué que les Mahamadot allaient lire le premier jour de la semaine Bereshit et Irakia. Bereshit, on allait lire avec deux personnes, Irakia avec une seule personne. L'Agma se demandait comment est-ce qu'on allait lire Bereshit avec deux personnes, Yerakia qui a trois psukim, pour une personne c'est parfait, mais Bereshit il y a cinq psukim, à partager en deux, comment est-ce qu'on fait? Rav nous dit que le troisième pasouk va être lu à deux reprises, par le premier et par le second. Shmuel nous dit que le troisième pasouk va être coupé en deux. Rav nous dit qu'on est doleg, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas qu'on est possède comme Shmuel? Parce que tout pasouk que Shmuel n'a pas coupé, il est interdit de le couper. Et bien maître de Malagma, comment Shmuel a pensé qu'il était permis? Arrête, on a une histoire de Rabbi Chanania Kara qui avait demandé beaucoup de fois à Rabbi Chanania Gadol, est-ce qu'on peut couper un passo, qui lui a dit, bon, si c'est pour enseigner les enfants et qu'ils n'ont pas le choix, là on peut le faire, comment est-ce que Shmuel s'est permis donc de couper les psukim? Je la gemara, pour la même raison, pour les enfants, on n'avait pas le choix, là aussi on n'a pas le choix. Shmuel il a dit posek, il n'a pas utilisé la solution de Rav, pourquoi? Parce que la solution de Rav elle n'est pas bonne, nirnasim et yotim, c'est-à-dire les gens qui rentrent et qui sortent, qui arrivent en retard ou qui partent trop tôt, quand ils vont voir qu'on a répéter, quand ils vont voir que le deuxième personne commence à partir du troisième pasouk, ils vont imaginer que le premier n'a lu que deux psukim. Quand le premier va lire trois psukim, ils vont imaginer que le second ne lit que deux psukim. Donc c'est pour ça que la solution de Rav n'est pas acceptée par Shmuel. Demande la Gemara, il est marqué dans le Gemara, une paracha de six psukim, on la lit à deux personnes, on partage en deux. Une paracha de cinq psukim, une seule personne. Si jamais le premier a lu trois psukim, alors le second va lire deux psukim plus un pasouk de la paracha précédente. Il y en a qui pensent que Yeshomrim, la paracha précédente aussi, on va lire trois psukim, demande la Gemara. Arri, Rav et Shmuel ont donné des propositions, ou alors de partager en deux, ou alors de répéter. Pourquoi est-ce que quand on a une paracha de cinq psukim, on est face à un problème? On a des solutions, demande la Gemara. Puisqu'on a là-bas d'autres solutions qui sont plus faciles, on peut lire les psukim de la paracha d'après. Pourquoi chercher des solutions compliquées? Nous dit Rabbi Tamkoun que la halakha est comme Yeshomrim, à savoir que la paracha, quand on commence une paracha, il faut lire au minimum trois psukim. Mis à part ça, nous dit Rabbi Tamkoun, la halakha est aussi que, de la même manière que quand on entame une paracha, il faut lire au moins trois psukim. De la même manière, à l'endroit où on va s'arrêter, il faut qu'il reste trois psukim jusqu'à la fin de la paracha. De la Gemara, c'est évident. Si déjà au sujet de que d'entamer une paracha, Tanakama et Mekim et Yeshomrim Somach Mirim, et au sujet de laisser dans la paracha, même Tanakama sont d'accord qu'il ne faut pas laisser de psukim, il faut laisser au minimum trois psukim pour la fin. Donc, à plus forte raison que Yeshomrim serait Machmir. Et donc, comme tu m'as dit que la halakha est comme Yeshomrim, je comprends que c'est dans les deux cas. De la Gemara, non. Peut-être que le problème, c'est seulement par rapport au Nichnasim, parce que c'est fréquent, mais les Yotim, ceux qui sortent au milieu, personne n'a le culot de sortir et de laisser se faire Torah comme ça. Et donc peut-être que Yeshomri me dirait qu'on a le droit de laisser moins que 3 psukim jusqu'à la fin, puisque les gens qui sortent en plein milieu, ce n'est pas fréquent. Agmar nous dit, c'est pour ça qu'on a précisé que la lacha était aussi par rapport à Yeshomri, que dans tous les cas, il faut avoir 3 psukim. Tanakama Bemel, pourquoi est-ce que lui fait une différence entre les trois psukim qu'il faut laisser pour la fin d'après Tanakama, mais on n'a pas besoin d'entamer. Quand on entame une paracha, on n'a pas besoin de faire trois psukim, dit Tanakama, puisque celui qui rentre est là, et donc il peut poser des questions. Comment se fait-il que vous êtes maintenant la personne qui a lu juste avant que j'arrive, elle s'est arrêtée après un pasouk, quoi on peut dire qu'un pasouk, qui va poser la question, on lui répondra. Donc on n'a pas de problème par rapport à cela. Par contre, par rapport au Yotim, on a un problème. L'Agma nous dit que l'Agma s'est posé la question, Rabba s'est posé la question à Rabbi Sefer Komi, comme qui? L'Agma lui a répondu, elle est comme Rav, et qui est-ce qui va répéter le pasouk? C'est le lecteur du milieu. Toute journée où il y a Moussaf, on a quatre personnes qui montent. L'Agma se pose la question au sujet d'un jour de jeûne. Combien de personnes vont lire? Est-ce qu'on considère qu'il n'y a pas de Moussaf, donc il n'y a pas quatre personnes? Ou alors le terme de Moussaf, c'est pour dire la tefila qui est plus longue, et le jour de jeûne, la tefila est plus longue. L'Agma ramène au départ une braïta, d'une Mishnah, il est marqué que Rosh Chodesh et Chol HaMoed, on lit 4. Ah, le jour de jeûne, on lit que 3. L'Agma nous dit, oui, mais dans cette même Mishnah, il est marqué que lundi, jeudi et vendredi après, et Shabbat après-midi, on lit 3. Ah, ça veut dire que les jours de jeûne, on lit 4. Donc, nous dit conclut l'Agma, d'ici, on ne peut rien prouver, puisque des déductions qu'on fait, de toutes les façons, on aura une contradiction. Rav, une fois, était à Bavel, il a été là-bas un jour de jeûne, il est monté à la Torah, il a eu la bracha d'avant, il a pas eu la bracha d'après, et tout le monde a fait Nefilat HaPaim, lui ne l'a pas fait. L'Agma nous dit, Rav, c'est un Israël, donc il montait en troisième position. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait la bracha d'après? Forcément, parce qu'il y avait un quatrième après lui. L'Agma nous dit, non, Rav, il lisait en premier, de la même manière que Ravuna lisait en premier, à la place des Kohanim, puisque c'était le Gdor Adam. Jacques, non, mais Ravuna, je peux comprendre que lui était que de l'ador. Parce que même Rav Ami, Rav Asi, qui était des Kohanim mais qui était très important, était sous la tutelle de Ravuna. Mais Rav, Aré lui-même, était sous la tutelle de Shmuel. Donc comment est-ce qu'il a pris ce titre de l'ador pour la Gemara? Non, en vérité, c'est Shmuel qui était sous la tutelle de Rav. Mais c'est Rav qui faisait un kavod spécial à Shmuel pour ses raisons. Quand est-ce qu'il faisait ce kavod quand Shmuel était là? Quand Shmuel n'était pas là, Rav prenait ce titre de l'ador, donc il montait en premier. Et donc, puisqu'il montait en premier, t'as pas de preuve. La Gemara, c'est logique de dire qu'il est monté en premier. Parce que s'il était monté, comme tu dis, en troisième position, pourquoi est-ce qu'il a fait la bracha avant de lire? Arrête, on a dit qu'on ne faisait pas la bracha. Toutes les personnes du milieu ne faisaient pas de bracha. Et là, forcément, il est monté en premier. C'est pour ça qu'il a fait la première bracha. On dit à Gemara, non, peut-être qu'on était après ce qu'on avait déjà enseigné hier, après qu'on ait instauré que toute personne qui monte à la Torah va faire la bracha d'avant et d'après. Et c'est pour ça qu'il a fait la bracha d'avant. Et Arrête, nous dit à Gemara, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait la bracha après? On dit à Gemara, parce que la bracha d'après, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Mais en vérité, dans la choule de Rav, il y a des gens qui peuvent arriver en retard, mais des gens qui vont oser partir alors que Rav est encore présent, ça n'existe pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a dit à chacun de faire une bracha après? Parce que peut-être la personne, elle va sortir et elle ne va pas voir que fait une bracha après. Mais non, dans la choule de Rav, ça n'arrive jamais. Quand Rav est présent, personne ne sort de la choule. La Gemara Norman Barita, elle est marquée que à chaque fois qu'il y a Bitul Melacha, c'est-à-dire si on rallonge la tefila, ça va causer une perte, alors il y a trois personnes qui disent, comme les jours de jeûne ou les jours de Tisha B'Av. Mais s'il n'y a pas de Bitul Melacha, si de toutes les façons on ne travaille pas, comme Rosh Chodesh et Chol HaMoed, alors il y a quatre personnes qui vont lire. Donc c'est marqué clairement que les jours de jeûne et Tisha B'Av, c'est trois personnes. Rav Ashi nous dit parfait, mais moi j'ai un problème. Dans notre Mishnah, il est marqué Kol Yom Shesh Bo Moussaf. Donc toujours il y a Moussaf, il n'y a que quatre personnes. Cette règle, qu'est-ce qu'elle est venue me rajouter? Forcément, elle vient me rajouter que les jours de jeûne, qui sont aussi Moussaf dans le sens, non pas une fila en plus, mais une fila plus longue, ce jour-là aussi il y a quatre personnes. Donc c'est contraire à cette Braïta. On dit l'agma, alors d'après toi, Rav Ashi, on devrait avoir quatre personnes. Et pourtant, on a une Braïta qui parle de Tisha B'Av. On a une marloquette. Tanakama pense que si Tisha B'Av tombe en un jour, un jeudi, il y a trois personnes qui montent. Mais si ça tombe un autre jour de la semaine, il n'y a qu'une personne qui monte. Alors que Rabbi aussi pense que c'est tout le temps trois personnes qui montent. Comment est-ce que tu peux affirmer que de la règle énoncée dans notre Mishnah, tu déduis que Tisha B'Av, il y a quatre personnes? Jacques Maroc, tu as raison. Alors Tisha B'Av et les jours de jeûne, il n'y a que trois. Alors qu'est-ce que cette règle est venue me rajouter? En vérité, elle n'est rien venue me rajouter. Elle est seulement venue t'apprendre que chaque jour qui est un peu plus important que l'autre, il y a une personne de plus. Donc les jours standards, c'est trois. Les jours de Moussaf, c'est quatre. Les jours d'interdit de Melacha comme Yom Tov, c'est cinq. Les jours où il y a Karet comme Kippour, c'est 6. Et les jours de Shabbat où il y a ce qu'il a, c'est 7. La Gemara revient sur l'histoire de Rav et se pose la question, pourquoi est-ce que Rav Bémet n'a pas fait de Nefilat HaPaim? Pour la Gemara, il avait un sol qui était carrelé et il est interdit de se prosterner en dehors du Beth Amikdash dans un sol qui est carrelé, qui ressemblerait au Beth Amikdash. On n'a rien le droit de faire, on n'a en rien le droit de faire ressembler au Beth Amikdash. La Gemara, si c'est comme ça, alors pourquoi les autres se sont prosternés? La Gemara, c'était que devant Rav ce sol. Et c'est pour ça que le sol lui avait cet interdit. Eh bien, Rav avait qu'à se déplacer et aller se mettre du côté du public pour aller faire une filette à Parim. Jacques Marin, non, s'il allait se déplacer, ça allait déranger tout le monde. Il voulait déranger personne, c'est pour ça qu'il est resté à sa place. Autre explication, lui avait pour habitude de s'allonger complètement, Ishtachavaya, et c'est seulement ça qui est interdit, c'est pour ça que lui n'a pas fait une filette à Parim. Mais eux ne se prosternaient pas complètement, et donc pour eux, c'était permis. Ben, Rav avait qu'à faire comme eux. Lui, il ne changeait pas ses minagim, c'est pour ça qu'il n'a pas fait comme les autres. Dernière réponse, un homme chashuv comme Rav n'a pas le droit de faire une fila tapaim devant les autres, comme on l'a vu ensemble dans la Maseret Taanit. Tu prends des risques quand tu fais une fila qui va marquer les esprits, que peut-être ne va pas être exaucée, donc ne le fais pas. La Gemara nous dit que le terme kida, c'est de prosterner, c'est-à-dire que son visage est parallèle au sol. Le terme de kriya, c'est s'agenouiller. Le terme de shtachavaya, c'est pishuta d'un breglaim, c'est se prosterner entièrement. On ramène des psukim pour chacune de ces termes-là. Lévi a fait une kida devant Rabbi pour montrer c'était quoi, et il est devenu boiteux. Demande la Gemara, mais c'est pas ça qui lui a causé et qu'il est devenu boiteux. C'est parce qu'une fois, il a mal parlé, il a été puni. La Gemara avait agarmala, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il devait être puni. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand il a pris des risques. La Gemara nous dit qu'Abaye et Rava, eux, avaient pour minak de ne pas faire Nefilat HaPaim, mais de le faire sur le côté, parce que c'est interdit de faire une Nefilat HaPaim devant les autres. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. Quand on a 5 psukim à partager entre deux personnes, on a deux solutions proposées par Rabbi Shmuel. Est-ce qu'on va répéter le troisième pasouk, qu'on va se compter en deux à l'acha, c'est qu'on répète le troisième pasouk. Ta'anit Tzibur, est-ce que c'est trois personnes ou quatre personnes? On a conclu que c'était trois personnes. Rav, qui ne faisait pas Nefilat HaPaim, on a donné plusieurs explications. Ou alors parce qu'il avait un seul carlé qui était seulement devant lui, ou alors parce qu'il faisait Pichut Yadayim réglé, mais les autres ne le faisaient pas. Ou alors parce que comme c'est Adam Gadol, c'est pour ça qu'il ne faisait pas de Nefilat HaPaim devant les autres. On a vu que le Gdol Hador avait le droit de dépasser le Kohen, de passer en premier dans la lecture de la Torah. Kida, c'est mettre son visage parallèle au sol. Kriya, c'est s'agenouiller. Ishtachavaya, c'est s'allonger complètement. La solution de l'abaye Rava pour les filatapaïm, c'est de ne pas s'allonger sur le sur, de ne pas mettre son visage face au sol, mais de se mettre sur le côté, le daf éclair, Baruch HaShem, et demain, Bezrat HaShem.